Amis auditeurs, bienvenue dans notre 9e émission consacrée donc à la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens, commentée par saint Jean Chrysostome. Et nous commençons aujourd'hui au chapitre 7, verset 13. C'est pourquoi nous nous sommes consolés de votre consolation, mais nous sommes réjouis plus abondamment encore de la joie de Tite, parce que son esprit s'est reposé grâce à vous tous. C'est le début de la 16e homélie. Il ajoute un autre signe de leur bonne disposition qui leur fait beaucoup d'honneur et qui montre combien leur charité est sincère. « Dans votre consolation, dit-il, nous nous sommes réjouis plus surabondamment encore de la joie de Tite. » Pourtant, ce n'est pas le fait d'un homme qui les aime beaucoup de se réjouir de ce qui arrive à Tite plutôt que de ce qui leur arrive. « Si fait, nous dit l'apôtre, car je n'en suis pas tant réjoui pour lui que pour vous. » Et c'est pourquoi il en donne ensuite la cause en ces termes, « parce que son cœur s'est reposé grâce à vous tous. » Il n'a pas dit « lui », mais « son cœur », c'est-à-dire sa charité pour vous. Et comment s'est-il reposé grâce à vous tous? Et en effet, c'est encore là un fort grand éloge. Car si je me suis glorifié de vous en quelque chose auprès de lui, verset 14, grand éloge pour les disciples que leur maître se glorifie d'eux. Je n'ai pas eu, dit-il, à en rougir, verset 14, toujours. Je me suis réjoui, veut-il dire, de ce que vous êtes devenus meilleurs et de ce que vous avez confirmé mes paroles par vos œuvres. De sorte que c'est pour moi un double honneur, puisque vous avez fait des progrès et que moi, on a vu que je ne m'écartais pas de la vérité. Mais de même que nous vous avons toujours parlé avec vérité, ainsi, quand nous nous sommes glorifiés de vous auprès de Tite, cela s'est trouvé conforme à la vérité. Verset 14. Ici, l'apôtre nous donne encore autre chose à entendre. De même que tout ce que nous vous avons dit a été selon la vérité, car il est naturel qu'il leur ait fait aussi beaucoup d'éloges de Tite, ainsi les choses que nous avons dites à Tite sur votre compte ont été trouvées vraies. Et ses entrailles ressentent pour vous une tendresse bien plus vive. Verset 15. Ces paroles sont d'un homme qui leur recommande Tite comme ayant pour eux une ardente charité et leur étant extrêmement attaché. Et il n'a pas dit sa charité, mais ses entrailles. Puis, pour qu'on ne pense pas qu'il le flatte, il ajoute partout les motifs de cette affection, afin, comme je viens de le dire, d'échapper aux soupçons de flatterie, et afin de les exhorter encore mieux en faisant retomber l'éloge sur eux, et en leur montrant que ce sont eux qui font naître en lui le principe et le motif d'une telle charité. Car après avoir dit « ses entrailles ressentent pour vous une tendresse bien plus vive », il ajoute « car il se souvient de votre docilité à tous ». Ce langage nous montre aussi Tite reconnaissant envers ses bienfaiteurs, puisqu'il est revenu les portant tous dans son cœur, qu'il se souvient continuellement d'eux et qu'ils sont perpétuellement à sa bouche et dans sa pensée. Il fait aussi aux Corinthiens un mérite encore plus grand de ceux que, lorsqu'ils laissèrent Tite partir, ils se l'étaient ainsi gagné. Ensuite, il parle aussi de leur docilité pour accroître leurs ailes. C'est pour cela qu'il ajoute « de la crainte et du tremblement avec lesquels vous l'avez reçu », verset 15. Non pas avec charité seulement, mais aussi avec un extrême respect. Vous le voyez, il rend témoignage de deux mérites en eux, de ceux qui l'aimaient comme un père et de ceux qui le craignaient comme un supérieur, sans que cette crainte affaiblisse leur affection, sans que cette affection détruisît leur crainte. C'est ce qu'il avait déjà dit plus haut, cette tristesse selon Dieu que vous avez eue, quelle vigilance n'a-t-elle pas produite en vous, et aussi quelle crainte et quel soupir. Verset 11. Je me réjouis donc, parce que j'ai en tout confiance en vous. Verset 16. Voyez-vous que c'est en eux qu'il se réjouit surtout? C'est, veut-il dire, parce que vous n'avez été en aucune circonstance la honte de votre maître, et que vous ne vous montrez pas indigne de mon témoignage. Ainsi, il ne se réjouissait pas tant à propos de Tite, de ce que celui-ci avait été l'objet d'un si grand respect, qu'à propos des Corinthiens, de ce qu'ils avaient fait preuve d'une si grande reconnaissance. Or, je vais vous faire connaître, mes frères, la grâce de Dieu qui m'a été donnée dans les églises de Macédoine. C'est le chapitre 8, verset 1. Quand il les a élevés par ses éloges, il en vient à l'exhortation. Et s'il a mêlé les louanges aux reproches, c'est de peur, en passant du reproche à l'exhortation, de rendre ses paroles difficiles à accepter. Il veut, en commençant par flatter leurs oreilles, frayer la route à ses exhortations. Il se propose de parler sur l'aumône. Aussi a-t-il la précaution de dire « Je me réjouis de ce que, qu'en tout, j'ai confiance en vous », faisant servir leur mérite précédent à augmenter leur bonne volonté pour la circonstance présente. Il ne dit pas immédiatement « Faites donc l'aumône », mais voyez sa prudence, voyez comme il prépare de loin son discours, comme il le prend de haut. « Je vais vous faire connaître, dit-il, la grâce de Dieu qui a été donnée dans les églises de Macédoine. » De peur qu'il ne s'enorgueillisse, il appelle cela une grâce, et racontant les œuvres des autres, il se sert des éloges qu'il donne à ceux-là pour rendre plus grand le zèle de ses auditeurs. Et il loue les Macédoniens pour deux motifs, pour trois même. Parce qu'ils supportent courageusement les épreuves, parce qu'ils savent exercer la miséricorde, et parce que tout pauvres qu'ils sont, ils ont montré de la libéralité dans leurs aumônes. Ils étaient pauvres, car on leur avait enlevé leurs biens. Puis il expose quelle est cette grâce. C'est que leur joie a été extrême dans les nombreuses épreuves de tribulation, verset 2. Ils ont eu, veut-il dire, les deux choses au plus haut degré, la tribulation et la joie. Aussi était-ce grande merveille de voir une telle abondance de joie jaillir en eux de la tribulation même. Car non seulement cette tribulation n'engendra point chez eux le chagrin, mais elle leur devint un sujet de contentement. Et elle était grande pourtant. Il parlait donc aussi ainsi pour préparer les Corinthiens à se montrer courageux et inébranlables dans les épreuves. Car les Macédoniens n'avaient pas supporté la tribulation d'une manière ordinaire, mais de telle sorte qu'ils s'étaient illustrés par leur patience. Bien mieux, l'apôtre ne parle pas de leur patience, mais ce qui est plus encore de leur joie, et non pas simplement de leur joie, mais d'une joie extrême. Oui, elle surgissait en eux, immense, ineffable. Et que leur profonde pauvreté a été surabondante pour la richesse de leur simplicité. Encore ici, les deux choses au plus haut degré, car de même qu'une grande tribulation a produit une grande joie, une joie extrême, de même, une grande pauvreté a produit une grande richesse d'aumônes. Car je l'atteste, et certes le témoin est digne de foi, ils ont agi selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, verset 3. Ce qui revient au même que a été surabondante pour la richesse de leur simplicité. Que dis-je, ceci n'est pas la seule explication. Tout ce qui suit éclaircit encore cette même pensée. De leur propre mouvement, dit-il. C'est là un second titre d'excellence. Avec beaucoup d'instances, verset 4, en voilà un troisième, puis un quatrième, nous demandant, puis un cinquième, quoique étant dans la tribulation et dans la pauvreté, ce qui en fait un sixième, enfin en voici un septième, c'est qu'ils ont donné considérablement. Et comme son principal objet, c'est d'obtenir des Corinthiens qu'ils donnent de bon cœur, il insiste principalement là-dessus et il dit, avec beaucoup d'instances et nous demandant. Ce n'est pas nous qui leur avons fait une demande, ce sont eux qui nous en ont fait une. Et que nous ont-ils demandé? La grâce et la communication des services rendus aux saints, verset 4. Voyez-vous comme ils relèvent encore leur action en lui donnant des noms honorables? Parce qu'ils avaient du zèle pour les âmes, il appelle cela une grâce, afin que les Corinthiens y courent. Puis il l'appelle une communication, pour que les Corinthiens sachent que ce n'est pas là seulement donner, mais en même temps recevoir. Ce dont il nous priait, dit l'apôtre, c'était donc de nous charger d'un tel service. Et ce ne fut pas comme nous nous y attendions. Verset 5. Il fait ici allusion et à la quantité de ceux qu'ils donnèrent et à leur tribulation. Il veut dire, car nous ne nous serions pas attendus qu'étant dans une si grande tribulation et dans une si grande pauvreté, ils nous eussent pressés et nous eussent si instamment priés. Il nous a fait aussi connaître la régularité du reste de leur vie en ajoutant « Mais ils se sont donnés d'abord au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Car en toute chose, ils furent plus dociles que nous ne l'avions attendu. Et parce qu'ils exerçaient la miséricorde, ils ne négligeaient pas pour cela les autres vertus, mais ils se donnèrent d'abord au Seigneur. » Et que signifie « ils se sont donnés au Seigneur » C'est-à-dire ils se consacrèrent à lui. Ils s'illustrèrent par leur foi, ils se montrèrent d'un grand courage dans les tentations, ils firent preuve de beaucoup de modération, de douceur, de charité, d'ardeur et de zèle dans la pratique de toutes les autres vertus. Et ces mots, et à nous, c'est-à-dire ils ont été dociles à notre égard, ils ont pratiqué la charité et l'obéissance en ce qu'ils ont accompli les lois de Dieu et que par la charité ils nous sont demeurés unis. Considérez comme ils montrent aussi leur zèle en disant « Ils se sont donnés au Seigneur ». Ils n'ont pas obéi à Dieu pour certaines choses et au monde pour d'autres, ils ont obéi à Dieu en tout et se sont donnés tout entier à lui. Ainsi, parce qu'ils faisaient l'aumône, ils n'en ont point conçu un fol orgueil, mais c'est tout en montrant beaucoup d'humilité, beaucoup d'obéissance, beaucoup de respect, beaucoup de grandeur d'âme qu'ils ont exercé aussi la miséricorde. Et pourquoi ces mots par la volonté de Dieu ? C'est qu'ayant dit « ils se sont donnés à nous », il veut faire entendre que ce n'est pas humainement parlant, mais qu'en cela même ils ont agi suivant l'intention divine. De sorte que nous avons prié, Tite, d'achever cette grâce en vous comme il a commencé. Verset 6. Et comment ces paroles viennent-elles après les autres ? Avec beaucoup de suite et de se rattachant étroitement à ce qui précède. En effet, voici le sens. Comme nous avons vu les Macédoniens pleins d'énergie et d'ardeur en toutes choses, dans les tentations, dans l'aumône, dans leur charité envers nous, dans la pureté de leur vie et pour tout le reste, ainsi que vous les égaliez, nous avons envoyé Tite vers vous. Il ne le dit pas, mais il le fait comprendre. Dix-septième homélie, mais afin que vous excelliez en tout par votre foi et par votre parole et par votre science et par toute espèce de zèle. Chapitre 8, verset 7. Voyez encore, comme avec des éloges, il les excite à en mériter de plus grands. Il n'a pas dit « afin que vous donniez », mais « afin que vous excelliez par votre foi, par les dons de la grâce, par votre parole pleine de sagesse, par votre science, des dogmes, par toute espèce de zèle pour les autres vertus et par votre charité ». Cette charité dont j'ai déjà parlé et dont j'ai donné la preuve. Qu'ainsi vous excelliez également en cette dernière grâce. Verset 7. Vous le savez, s'il commence par les louer sur les premiers points, c'est afin de les entraîner par la suite de son discours à se montrer tout aussi zélés sous ce dernier rapport. Je ne vous dis pas cela par manière de commandement. Verset 8. Voyez quelle complaisance il a sans cesse pour eux, comme il s'abstient d'être importun et d'employer la violence ou la contrainte. Que dis-je ? Ce double caractère est ici dans les paroles mêmes, absence d'importunité et absence de contrainte. En effet, comme il les a continuellement exhortés, qu'il a beaucoup loué les Macédoniens, de peur que cela ne ressemble à de la contrainte, voici comment il s'exprime. « Je ne vous dis pas cela par manière de commandement, mais voulant, par le zèle des autres, éprouver aussi votre fond sincère de charité. » Verset 8. Non pas qu'il en doute, car tel n'est pas le sens ici. Mais il veut mettre cette vertu en lumière, la prouver, et en même temps la fortifier. Si je vous parle ainsi, veulent-ils dire, c'est afin de vous exciter à la même ardeur, et en faisant mention de leurs ailes, je donne de l'éclat, du lustre, un stimulant à vos propres dispositions. Il arrive ensuite à l'argument capital et définitif de son conseil. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, par laquelle il s'est appauvri pour nous, lui qui était riche, afin que nous nous enrichissions par sa pauvreté. Pensez, leur veut-il dire, à cette faveur divine, réfléchissez-y, méditez-la. Ne la laissez point passer comme inaperçue, mais considérez-en la grandeur, l'importance et la dignité, et alors vous ne ménagerez rien de ce qui vous appartient. Notre Seigneur s'est dépouillé de sa gloire pour que vous vous enrichissiez, non par sa richesse, mais par sa pauvreté. Si vous ne croyez point que la pauvreté produise la richesse, pensez à votre maître et vous n'aurez plus de doute. Car s'il n'était pas devenu pauvre, vous ne seriez pas devenu riche. Chose étonnante pourtant que la pauvreté ait enrichi la richesse. C'est qu'ici, par le mot richesse, l'Écriture entend la science de la piété, la purification de nos péchés, la justice, la sanctification et les biens innombrables que Dieu nous a procurés et qu'il nous procurera plus tard. Or tout cela nous est venu de sa pauvreté. Et en quoi consista cette pauvreté ? À se revêtir de notre chair, à se faire homme, à souffrir ce qu'il a souffert. Et cependant, il ne vous devait pas ses sacrifices, au lieu que vous, vous lui êtes redevable. Et je vous donne en cela un avis pour votre utilité, dit-il, verset 10. Voyez, comme ici encore, il se préoccupe de n'être pas importun, et comme il adoucit son discours par ces deux expressions, je vous donne un avis, et pour votre utilité. Il leur dit, je ne vous contrains pas, je ne vous violente point, je fais un appel à votre bonne volonté. Et en vous parlant ainsi, j'ai moins en vue l'intérêt de ceux qui recevront que votre propre avantage. » Puis l'exemple même qu'ils donnent, ils le tirent d'eux-mêmes et non pas de quelques autres. À vous qui avez déjà commencé non seulement à faire cette bonne œuvre, mais même à la vouloir dès l'année dernière, verset 10. Voyez comme il fait voir qu'ils s'y sont portés d'eux-mêmes et sans impulsion étrangère. C'est qu'ayant précédemment rendu ce témoignage aux habitants de Thessalonique, qu'ils avaient pratiqué l'aumône de leur propre mouvement et avec beaucoup d'instance, il veut montrer que ce mérite est aussi celui des Corinthiens. Et maintenant, vous en avez accompli l'exécution. Verset 11. Il ne dit pas « Vous avez fait cette bonne œuvre, mais vous y avez mis la dernière main. » De manière que, comme votre désir est provenu de votre vouloir, ainsi votre action est provenue de votre avoir. Verset 11. En effet, il ne faut pas que ce noble mérite se borne au désir. Il faut qu'il reçoive la récompense qui suit les actions. Car, pourvu que le désir précède, on est bien accueilli selon ce que l'on a et non selon ce que l'on n'a pas. Verset 12. Voyez quelle ineffable sagesse. L'apôtre leur avait montré au commencement des gens qui avaient fait l'aumône au-delà de leurs moyens, je veux parler des habitants de Thessalonique, il les en avait loués et avait dit « Je leur rends ce témoignage qu'ils ont donné même au-delà de leurs moyens. » Verset 3. Maintenant, il engage les Corinthiens à faire l'aumône suivant leurs moyens, seulement il laisse l'exemple qu'il a donné produire son effet de lui-même, sachant bien que c'est moins l'exhortation que le zèle qui pousse les hommes à imiter les bonnes actions. C'est pour cela qu'il dit « Car pourvu que le désir précède, on est bien accueilli selon ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. Ne vous effrayez pas, veut-il dire, des paroles que j'ai prononcées tout à l'heure, car ce que j'en ai dit était pour faire l'éloge de leur libéralité. Mais Dieu nous demande en raison de nos moyens, d'après ce que nous avons et non d'après ce que nous n'avons pas. Car l'expression « on est bien accueilli » a ici la même valeur que s'il y avait « Dieu demande de nous ». S'en remettant donc avec confiance à l'exemple qu'il a cité, il les ménage extrêmement et les attire d'autant mieux qu'il les laisse libres. Aussi ajoute-t-il encore, car il ne faut pas que le soulagement des autres soit votre surcharge. Verset 13. Cependant, Jésus-Christ avait loué au contraire la veuve pour s'être dépouillée de tous ses moyens d'existence et d'avoir donné quelque chose dans sa misère même. Mais saint Paul parlait aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il a recours à une exhortation mesurée, louant à la vérité ceux qui font l'aumône au-delà de leurs moyens, mais sans contraindre les Corinthiens à en faire autant. Non pas qu'ils ne le voulût, mais parce qu'ils étaient un peu faibles. Que votre superflu supplée à ce qui leur manque, verset 4. Pour rendre son commandement léger, il n'en avait pas dit assez. Il a voulu y ajouter les mots que vous venez d'entendre. Et même non content des moyens précédents, il leur facilite encore l'accomplissement du précepte en leur montrant la récompense et en des termes plus grandioses qu'ils ne le méritent. Afin, dit-il, que l'égalité se fasse dans le temps présent et que leur superflu supplée à ce qui nous manque, verset 4. Qu'est-ce à dire ? Le voici. Vous regorgez, vous autres, de richesses. Eux, ils regorgent de la véritable vie et de leur crédit auprès de Dieu. Donnez-leur donc de ces richesses que vous avez en surabondance et dont ils sont privés, afin que vous receviez d'autres biens par l'entremise de ce crédit dont ils sont riches et dont vous êtes pauvres. Voyez comme il a su, sans qu'ils s'en doutassent, les préparer à donner au-delà de leurs moyens et même dans l'indigence. Car si vous voulez, leur dit-il, recevoir de la surabondance des autres, donnez vous-même de votre surabondance. Mais si vous voulez vous faire donner tout, il faut leur offrir même de votre indigence et au-delà de vos moyens. Il ne tient pas littéralement ce langage à ses auditeurs, mais il laisse leur raisonnement tirer cette conclusion. En attendant, il poursuit toujours son premier but, il opère son exhortation modérée en leur parlant des effets visibles, en leur disant « afin que l'égalité se fasse dans le temps présent ». Comment arrivera cette égalité ? En ce que vous et eux, vous vous donnerez réciproquement de ce que vous avez en abondance et vous supplierez mutuellement à ce qui vous manque. Et quelle est cette égalité, puisqu'en retour de choses matérielles, on vous en rendra de spirituelles ? La supériorité est grande de ce dernier côté, comment donc appelle-t-il cela de l'égalité ? Et il ne la considère qu'au point de vue du superflu et du trop peu, ou bien seulement par rapport à la vie présente. C'est pour cela qu'après avoir dit l'égalité, il ajoute « dans le temps présent ». Et en parlant ainsi, il voulait rabaisser l'orgueil des riches et faire voir qu'après notre départ d'ici-bas, les hommes spirituels auront de beaucoup l'avantage. Car en ce monde, nous jouissons tous d'une grande égalité. Mais alors, il y aura une grande différence. Les uns auront sur les autres une extrême supériorité, car les justes seront plus resplendissants que le soleil. Ensuite, quand il les a représentés non seulement comme donnant, mais encore comme recevant en retour de plus grands avantages, il veut donner à leur ardeur un autre mobile en leur montrant que même s'ils ne font part de rien à autrui, ils ne posséderont rien de plus après avoir ainsi tout amassé chez eux. Et il leur cite alors un trait de l'antique histoire, selon ce qui est écrit, celui qui en recueillait beaucoup n'en avait pas plus que les autres et celui qui en recueillait peu n'en avait pas moins. C'est de la manne qu'il en fut ainsi. Car eux qui en avaient ramassé davantage et ceux qui en avaient amassé moins se trouvaient en avoir la même mesure, Dieu punissant ainsi l'avidité. Or l'apôtre parlait ainsi, tant pour les effrayer par l'exemple de ceux qui s'étaient passés alors, que pour leur persuader de ne désirer rien de trop et de ne point s'affliger lorsqu'ils n'avaient pas assez. Et l'on peut voir se renouveler de nos jours au sujet des affaires de cette vie, ce qui eut lieu autrefois à propos de la manne. Chacun de nous n'a qu'un seul estomac à satisfaire. La durée de la vie est la même pour tous, et chacun de nous n'est revêtu que d'un seul corps. En conséquence, le superflu du riche ne lui vaudra rien de plus, comme au pauvre, son dénuement rien de moins. Voilà, mes auditeurs, notre enseignement de ce jour s'achève avec cette belle catéchèse sur les richesses et sur la manière de les partager. Hein. Que le Seigneur nous garde de tout attachement à l'argent et qu'il nous donne vraiment d'en faire, comme dit le proverbe dans la sagesse populaire, un bon serviteur et jamais un grand maître. À bientôt, au revoir.